sur le combat spirituel, dans Éphésiens chapitre 6. On va finir par le connaître par cœur, ce texte, mais puissions-nous le vivre. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Voilà donc le combat spirituel que nous voyons ensemble déjà depuis plusieurs semaines est un thème tellement important, je dirais même qu'il est capital, et nous avons besoin d'apprendre dans ce domaine. Je crois qu'il n'y en a aucun qui peut dire « moi je sais, je connais », mais nous avons besoin d'apprendre au pied du Seigneur, devant la parole, et que le Saint-Esprit puisse nous communiquer tout ce dont nous avons besoin, mais nous voulons le réclamer au Seigneur, toutes ses armes offensives et défensives, car Satan est à l'œuvre, et dans ses ruses, dans ses attaques, elles vont s'intensifier au fur et à mesure que nous approchons du retour du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt, je ne vous apprends rien, mais tout nous montre que Jésus est à la porte, et le diable sait qu'il n'en a plus pour longtemps et il se déchaîne, il fait le maximum pour saper la foi des chrétiens, pour les arrêter dans leur marche spirituelle. Il fera tout, mais Dieu a prévu pour nous toutes ces armes qui sont efficaces. Alors la guerre est invisible, nous le savons, mais elle est bien réelle parce que nous en voyons les dégâts autour de nous. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre aussi de son côté. Il nous a dit que l'œuvre du Seigneur, elle est grandissante dans le monde entier. Et son désir est que nous soyons équipés, que nous soyons entraînés, que nous soyons aptes dans le combat, pour que nous puissions non seulement résister, tenir ferme, mais gagner du terrain et récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Les armes que Dieu nous a laissées, elles sont puissantes, elles sont efficaces, même pour renverser les forteresses. N'ayons aucun doute là-dessus, tout ce que Dieu nous communique est tellement puissant. N'oublions jamais que nous sommes du côté du vainqueur, celui qui a triomphé à Golgotha. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations en triomphant d'elles par la croix. Nous sommes de son côté. Et nous combattons pour entrer dans sa victoire à lui. Ce n'est pas notre victoire, mais c'est sa victoire à lui. Et en combattant, nous entrons dans sa victoire. Alors, dans les armes défensives que nous avons vues ensemble, il y a eu la ceinture de vérité que nous avons vue ensemble, qui correspond à la vision juste de qui est Dieu, qui est Christ, qui est l'homme, la foi, la sanctification. Il nous faut une vision juste de ces choses. D'ailleurs, si nous n'avons pas une bonne vision, on ne pourra pas combattre efficacement. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas d'armes contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Nous avons vu donc cette ceinture de vérité, nous avons vu aussi la cuirasse de la justice, donc de protéger les organes vitaux, quand c'est ce combat physique des Romains, mais pour nous, nous avons à protéger notre cœur, nous avons à protéger de toutes ces failles qui pourraient se trouver dans la cuirasse, et nous avons vu que c'était une marche dans la sainteté, dans la vérité, qui pouvait nous protéger contre les traits enflammés du malin, Et bien sûr, nous avons parlé de Jésus, qui, lui, n'avait aucun péché, aucune faille, rien sur lequel le diable pouvait l'atteindre. Et il était bien sûr rempli du Saint-Esprit. Nous verrons ce soir ensemble, pendant quelques minutes, la troisième arme pour le combat spirituel. N'oublions pas que Dieu a dit, prenez toutes les armes. Il n'y en a aucune à laisser de côté. Et ce soir, nous verrons, il est dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures sont importantes. Quand nous avons mis nos vêtements, en dernier, nous mettons nos chaussures pour sortir, pour aller vaquer à nos occupations. Et selon ce que nous faisons, nous mettons des chaussures adaptées à ce que nous avons prévu, que ce soit le sport, que ce soit le travail, que ce soit le dimanche, que ce soit. Voilà, nous mettons des chaussures toujours adaptées. Ces chaussures vont bien sûr nous protéger dehors, des intempéries, du froid, etc. Mais elles vont aussi maintenir nos pieds à l'aise pour la marche. Des chaussures adaptées pour ce dont nous avons besoin de faire. Maintenant, dans la vie du soldat, Paul prend l'exemple, bien sûr, du soldat romain. Dans la vie du soldat, la chaussure était tellement importante. Des chaussures protection, mais aussi adaptées pour parcourir de longues distances pour le soldat romain. Alors, le soldat romain, à l'époque, avait des chaussures appelées caliga. C'était ce nom qu'on donnait à ces chaussures. Elles étaient confortables, mais sous la chaussure, la semelle à l'extérieur, c'était clouté. Clouté pour protéger la semelle en cuir, bien sûr, mais également pour progresser dans les terrains meubles. J'allais dire, c'était des chaussures tout-terrain. Et ces soldats en avaient tellement besoin pour combattre, ils avaient besoin d'être bien chaussés pour ne pas glisser, pour ne pas partir en arrière, mais pour gagner toujours du terrain. Être prêt à partir, être prêt pour le combat et être stable. Cela nous parle de toujours être. C'est notre mission, c'est le terrain que nous avons à conquérir. Et le Saint-Esprit nous a équipés pour l'évangélisation. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? Eh bien, nous serons les témoins dans notre famille, dans notre voisinage, dans nos collègues de travail et tous ceux que nous rencontrerons partout où nous allons. Voilà où nous devons être les témoins. Non plus à Jérusalem pour nous, non plus en Samarie, en Judée, mais nous sommes témoins là où Dieu nous a placés et le cercle doit s'agrandir. Là où nous évoluons, nous devons être des témoins. C'est un véritable combat, l'évangélisation. Le salut des âmes, c'est un véritable combat. Et notre frère Raymond en sait quelque chose, et tous ceux qui évangélisent, tous ceux qui sont dans la rue, savent que c'est un véritable combat pour rendre témoignage et pour que les âmes soient touchées. C'est l'ordre du Seigneur que Jésus nous a donné dans Matthieu au chapitre 28. Le Seigneur nous a donné cet ordre. Matthieu, je le cherche avec vous, Matthieu chapitre 28 et verset 19. Voici ce que nous lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas si on a le temps, si on se sent bien, ce n'est pas si on est en forme. C'est un ordre du Seigneur. C'est Jésus qui nous envoie, à partir du moment où nous sommes sauvés, où nous avons reçu le Seigneur, eh bien, il nous envoie à notre tour pour témoigner de l'amour du Seigneur. D'ailleurs, si nous avons reçu l'Évangile, si nous avons été sauvés, c'est que quelque part, quelqu'un nous a témoigné, quelqu'un nous a parlé de l'Évangile afin que nous puissions être touchés dans notre cœur et recevoir Jésus. Ce à quoi le Seigneur nous appelle est simple. je ne dis pas facile, hein, je dis simple et clair. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. À l'intérieur de l'Église, le Seigneur nous appelle à prier, à adorer, à être en communion les uns avec les autres, la Sainte Cène, et à recevoir l'enseignement. Ça, c'est l'intérieur de l'Église. À l'extérieur, la compassion et l'évangélisation. C'est tout, c'est simple, le Seigneur nous envoie. Nous recevons et nous allons donner. Nous recevons à l'intérieur et nous donnons à l'extérieur. Mais d'une simplicité, et je crois, c'est une petite parenthèse, je crois qu'on a besoin de revenir à des choses très très simples, à ne pas se compliquer la vie. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est très simple, il nous a tout donné pour que nous puissions aller, pour que nous soyons équipés. Une personne sauvée, c'est un incrédule de moins, mais c'est aussi un disciple de plus, un combattant de plus. Quelqu'un qui, à son tour, va témoigner de Jésus et atteindre des cœurs et communiquer la paix. Il nous est dit dans ce verset que nous avons lu le zèle que donne l'évangile de paix. J'aimerais m'arrêter un instant sur ce zèle, le zèle chrétien. Le zèle, j'ai cherché, bon, bien sûr, dans le dictionnaire, c'est une ferveur religieuse active, ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Le message de l'évangile appelle le zèle. C'est une conséquence. C'est quand nous avons reçu le salut, un tel message, une telle portée, une telle puissance, ce n'est pas banal, ce n'est pas quelque chose en plus dans notre vie, mais c'est le plus important. L'apôtre Paul dira que l'évangile, dans Romains 1,16, que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est aussi un test pour notre vie chrétienne. Ce message, finalement, a-t-il bouleversé notre vie? Ce message que nous avons reçu, l'Évangile, le Seigneur Jésus, a-t-il transformé notre vie? Est-ce que nous avons vécu une renaissance ou une métamorphose? Avons-nous vécu cela? Parce que si ça a été tellement efficace pour nous, ça le sera aussi pour les autres. Et nous en serons convaincus parce que nous savons ce que nous avons vécu avec le Seigneur, comme cet aveugle dira, quand on lui demande raison de ce miracle, il dit « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois ». Alors le message de l'Évangile, quand il est dans notre cœur, dans notre vie, quand il a œuvré, quand il nous a transformés et continue à nous transformer, eh bien nous allons être comme Jérémie le prophète, il ne pouvait le contenir. Jérémie chapitre 20, verset 9. Jérémie, chapitre 20, verset 9. Voilà Jérémie, ce qui est... Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire de Dieu. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé. Dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est un message qu'on ne peut contenir, il a tellement œuvré, tellement agi en nous, il nous a tellement apporté de choses qu'on ne peut le contenir. Le Saint-Esprit nous pousse à rendre témoignage de Jésus. C'est ça l'évangélisation. Ce n'est pas une organisation de grands de rassemblements, ce n'est pas ça du tout. L'évangile, l'évangélisation, c'est un trop-plein, c'est un feu, c'est un amour, c'est une compassion qu'il y a en nous et qui nous pousse à parler aux autres. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, je n'ai pas le verset de tête, mais il nous est dit que l'amour de Christ me presse, l'amour comme un feu qui me presse à parler de lui, à prier pour les perdus, à leur apporter cette compassion dont ils ont besoin. Devant des hommes et des femmes perdus, en danger de passer l'éternité loin de Dieu, eh bien, ne pas témoigner, c'est non-assistance à personne en danger. Nous savons, nous, la portée du message, nous savons la puissance du message, nous savons l'amour que ça apporte, nous savons que ça nous met à l'abri du jugement de Dieu. Et ceux vers qui nous passons, ceux devant qui nous passons, jour après jour, nous évoluons, eux, ils sont perdus. ils sont sous la condamnation de Dieu, nous dit la Bible, et s'ils décèdent, ils vont passer l'éternité loin de Dieu. Alors, l'évangélisation la plus efficace, comme je disais, c'est celle dont le Seigneur nous a ordonné et que les premiers chrétiens ont pratiqué, des témoins, un à un. Ils témoignaient là où ils étaient, ils prêchaient et ils témoignaient là où ils étaient. Mais pour témoigner, il faut être des témoins, c'est l'évidence même, les témoins de ce que Dieu a fait dans notre vie. Quelques paroles de notre témoignage, appuyées par le Saint-Esprit, peut amener quelqu'un à Christ et changer sa vie ici-bas et son avenir éternel. Quand on y réfléchit, c'est une grande responsabilité. On peut dire les uns et les autres, « Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement besoin de ton esprit dans notre vie, nous avons tellement besoin pour obéir à cette parole et le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent, ceux qui veulent obéir, ceux qui veulent marcher. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions y aller. » Peut-être me direz-vous, au début de ma conversion, j'avais le feu, je témoignais, je parlais là où j'étais, je ne laissais passer aucune occasion, je témoignais beaucoup, mais maintenant je me suis assagi avec les années, c'est retombé, je témoigne maintenant que très rarement, quand vraiment la porte est tellement ouverte que je ne peux faire autrement. Là je dis, Seigneur, nous avons besoin. Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne, nous avons besoin, les uns et les autres, d'un renouvellement puissant dans ce domaine, que cette compassion puisse à nouveau être en mouvement dans notre vie, que ce feu puisse brûler, que le Saint-Esprit puisse agir, que l'on soit conscient de l'œuvre que le Seigneur a faite en nous, que l'œuvre que le Seigneur a accomplie à Golgotha, que l'on soit conscient de cela et que l'on puisse dire, Seigneur, je ne peux pas contenir ce témoignage, ce message qui est en moi, je ne peux pas me taire, je passe à côté des gens qui sont perdus, j'évolue, je vis peut-être à côté de gens qui sont perdus, Seigneur, et moi, je sais. Alors je veux prier pour que leur cœur soit touché, pour que les quelques paroles que je vais leur donner, eh bien, touchent leur cœur, et qu'ils passent de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Quel message formidable nous avons. C'est le plus beau message, le plus grand message, le message le plus important que la terre ait reçu, le message de l'Évangile. Et l'apôtre Paul le savait bien, il dit à un moment, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Le zèle, à tel point quand les gens ont besoin d'entendre, pas des choses extraordinaires, ils ont besoin d'entendre, eh bien, des gens simples, transformés par la puissance de l'Évangile, à tel point qu'ils en ressentiront aussi le besoin. Si nous, on est, comment dire, les effets de ce message de l'Évangile sont dans notre vie, nous apportent tellement de paix, tellement de joie, vous allez me dire, oui, mais j'ai des épreuves. Mais par-dessus les épreuves, bien cette joie, elle demeure, la joie du salut, elle demeure. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Et ça doit transparaître dans notre vie, à tel point que les gens vont nous dire « Mais qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas ?» Et ça, c'est la meilleure évangélisation. Et là, nous pouvons témoigner. Que Dieu nous donne eh bien, de témoigner autour de nous, de reprendre si nous avions arrêté, d'avoir de l'audace, d'avoir ce zèle, de dire « Seigneur, allume un feu nouveau dans mon cœur et que je puisse transmettre ce message. » Quelques versets sur le zèle. Quand je pense à l'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 9 et verset 3, il dira « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. » Quel amour, quelle compassion. Ça nous fait penser bien sûr à Moïse, qui dira « Seigneur, efface de ton livre mon nom, mais ce peuple ne les juge pas, Seigneur. Il intercède pour le peuple. » Et là, Paul dira, « Mais pour ma famille, je voudrais moi-même être séparé de Christ, afin qu'ils soient sauvés, que leur nom eh bien, soit inscrit dans le livre de vie. » Nous avons également, dans Romains, au chapitre 12, verset 11, il nous est dit, Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et oui, Seigneur, c'est un ordre. Ayez du zèle et non de la paresse. Il nous est dit aussi dans le livre du prophète Ésaïe et repris par Jésus, le zèle de ta maison me dévore. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, il nous est dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle et repens-toi. Demandons à Dieu ce renouvellement, ce feu qui brûle encore, cette huile, une huile fraîche, cette onction, que nous puissions être métamorphosés à nouveau et que nous puissions dire, Seigneur, le temps presse, tu reviens bientôt, les jours, les semaines, les années passent et tous ces événements nous montrent que tu reviens et ceux qui sont autour de moi, Seigneur, ceux que tu as placés, ce que tu as placé autour de moi et c'est là ma responsabilité, c'est pas la même pour quelqu'un qui habite dans le nord de la France, mais là où tu m'as placé, Seigneur, eh bien je veux être un témoin. Si je peux parler, Seigneur, donne-moi ce zèle, donne-moi vraiment, Seigneur, ce feu. Dans 2 Timothée au chapitre 1er verset 6, il est dit c'est pourquoi, et Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, à ranimer. Ranimer, c'est la responsabilité personnelle. Vous allez me dire, mais c'est Dieu qui peut ranimer. Oui, mais c'est nous aussi qui pouvons nous placer en position où Dieu pourra ranimer. Si nous avons soif, nous avons ce désir, nous allons prier pour cela, et Dieu, par son esprit, va nous visiter et va nous renouveler. Nous en avons tellement besoin. L'évangélisation, c'est cela. C'est pas un événement, c'est pas quelque chose qu'on attend à tel moment de l'année. Non, l'évangélisation, c'est le témoignage personnel. Bien sûr, prêcher, bien sûr, une mission, c'est important, mais ça vient après. Ce qui vient en premier dans l'évangélisation, c'est que je sois un témoin. Et nous avons été sauvés pour être des témoins. Alors, le temps passe. Il est quand même étonnant dans notre texte que nous avons lu de trouver le mot évangile de paix, alors que tout le texte nous parle de la guerre. Tout le texte nous parle des armes offensives, défensives, nous parle de l'ennemi, nous parle de ce combat invisible dans les lieux célestes, il y a un combat acharné, et d'un coup nous trouvons la paix, évangile de paix. Au milieu de toute cette guerre, de toutes ces armes, eh bien, le but de la guerre, c'est d'amener à la paix. Nous combattons pour que les gens acceptent les conditions de paix que Dieu leur offre. Nous prions pour cela, nous nous tenons devant Dieu, nous jeûnons, nous nous tenons devant le Seigneur afin que des hommes et des femmes, eh bien, qui sont liés, qui sont aveuglés, qui sont séduits, puissent découvrir le message de l'Évangile. Nous battre pour que les âmes eh bien, reçoivent la paix de Dieu. C'est le but. C'est le but. On a dit d'un homme connu, un homme d'État, lors de la Première Guerre mondiale, il a gagné la guerre, mais il a échoué en ce qui concerne la paix. Or, nous voulons être vainqueurs dans la guerre et communiquer, être des instruments de paix. Il nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens, je vous amène à lire encore un texte, on en lira un autre dans Éphésiens chapitre 2. Et voici ce que nous trouvons concernant, bien sûr, la paix. Éphésiens 2, et nous lisons à partir du verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé ce mur de guerre. Jésus a versé son sang pour le pardon des péchés. Alors il y a deux sortes d'inimitié, deux sortes de guerre. Il y a bien sûr l'hostilité entre les pécheurs et Dieu, qui prend fin lorsque le pécheur se repent, il prend fin, il reçoit la paix de Dieu. Et l'inimitié entre les hommes, entre les races. Et là, Jésus a fait tomber ce mur. Alors, Christ devient notre paix. C'est cela, l'évangile de paix. Il a fait une œuvre tellement puissante pour nous réconcilier avec Dieu, mais pour réconcilier les peuples entre eux et en faire des deux, en faire qu'un. Juifs et païens, faire un seul peuple. Quel miracle! Quelle puissance! Ça, c'est la puissance de l'évangile, c'est la puissance de la croix. Il nous est dit, souvenez-vous en ce temps-là, comment nous étions-nous? Sans espérance et sans Dieu. Nous étions loin de Dieu, les uns et les autres. Et un jour, eh bien, nous avons entendu le message de l'évangile. Il est dit dans Éphésiens, toujours chapitre 2, verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, les uns et les autres, hein, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Voilà ce que nous étions. Mais des chrétiens ont prié pour nous. D'autres nous ont parlé. Nous avons entendu le message de l'Évangile. Peut-être un prospectus nous a été donné. Peut-être, je ne sais. Mais nous étions de leur nombre, nous étions des enfants de colère, on était sous le joug de l'ennemi, on était agités par la puissance de l'air, on ne pouvait pas se défaire nous-mêmes, on souffrait cruellement, et le message de l'Évangile est venu frapper à la porte de notre cœur. Que cela puisse remuer en nous ces entrailles de miséricorde, de cette compassion. Jésus, quand il voyait la foule, il était ému de compassion. Et nous devons revenir à ces choses simples, nous tenir devant le Seigneur, dire « Seigneur, c'est vrai que je ne veux pas vivre une vie égoïste, une vie centrée sur moi. J'ai reçu le message, j'ai été sauvé, des gens se sont donnés, peut-être des gens ont jeûné pour moi, ont prié pour moi pendant des années et m'ont témoigné. Et moi, je profite de ce salut, je jouis de ce salut. Non, Seigneur, je veux vraiment moi aussi être un témoin. » La vie est un combat, et je vais bientôt terminer, mais la vie est un combat permanent. Du berceau jusqu'à la tombe, eh bien c'est un combat. Dans notre âme, dans notre esprit, dans nos familles, dans le travail, ce sont des champs de bataille. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, et qu'il nous prenne avant qu'il revienne, mais c'est un champ de bataille, et nous avons à livrer ce combat. En Christ, nous sommes vainqueurs et même plus que vainqueurs. Alors nous voulons livrer ce combat, nous voulons marcher, nous voulons obéir. Nous avons vu que la ceinture de vérité, la cuirasse, et maintenant les chaussures que donne le zèle de l'Évangile de paix, c'est quelque chose de motivant, le message de l'Évangile. Et ça doit encore nous motiver, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, qu'il y ait comme un renouveau en nous. Et que nous puissions dire, Seigneur, voilà, je vais mettre sur une liste de prières des personnes du voisinage ou autres. Seigneur, permets que je puisse les rencontrer. Je vais prier tous les jours pour eux. Peut-être vous le faites déjà, merci Seigneur. Mais que nous puissions maintenant atteindre les âmes, que l'onction soit sur nos vies. Quelques paroles dites avec l'onction et les âmes vont être touchées. Alors, eh bien, que nous puissions aller de l'avant, avoir à nos pieds, le zèle de l'Évangile, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile, c'est être disponible. C'est être touché par le Seigneur. C'est être touché par la misère des autres, par la souffrance des autres. Avoir à nos pieds les chaussures, eh bien, c'est aussi être disposé, disponible entre les mains de Dieu. C'est cette marche, c'est ce service que nous voulons donner au Seigneur. Dans Romains au chapitre 10, verset 15, c'est le dernier verset que nous lirons, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Nos pieds sont en bon état quand nous annonçons l'Évangile, bien chaussés par ce zèle que donne l'Évangile de paix. Eh bien, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons, dans cette fin d'année et début d'année qui va s'ouvrir, nous voulons que des âmes soient sauvées. Voilà, il faut que ce soit notre mission, que ce soit un but, que ce soit... C'est un combat, et ça fait partie, justement, dans toutes ces armes, ça fait partie de ce combat, parce que le diable veut maintenir les âmes dans les ténèbres, dans la séduction, il veut maintenir les chrétiens arrêtés, centrés sur eux, s'occupant de leurs affaires, mais ce n'est pas la mission que le Seigneur nous a donnée. Cette mission, il est dit, allez par tout le monde, allez là où vous êtes, témoignez. Et je crois que si nous sommes décidés, disponibles, eh bien, que ce zèle commence encore à brûler dans notre cœur, je crois qu'il va y avoir du résultat, il va y avoir des âmes qui vont être touchées, qui vont se donner parce que le Seigneur le veut plus que nous. Alors, il veut nous utiliser comme des instruments entre ses mains. Alors, nous prions et nous prierons chez nous, bien sûr, nous prierons pour que, eh bien, nous laisser toucher par la parole et par le Saint-Esprit. Nous laisser toucher dans nos priorités, dans notre sensibilité, dans notre amour et dans notre disponibilité. Que le Seigneur puisse nous trouver présents en disant « Seigneur, moi j'ai beaucoup de choses à faire, c'est vrai, mais Seigneur, ma mission à moi, c'est celle que tu m'as donnée. Tu as dit « Allez partout le monde » ou alors « Soyez mes témoins, recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. » Seigneur, je veux obéir parce que ce n'est pas facultatif. C'est pas si j'ai le temps, si je suis bien disposé, si je suis en forme. Non, Seigneur, c'est un ordre. Et si j'y vais, tu renouvelleras mes forces. Si j'y vais, Seigneur, tu renouvelleras mon être intérieur. Si j'y vais, Seigneur, tu me donneras ton esprit. Il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Seigneur, je veux t'obéir. Simplement, là où tu m'as placé, sans faire de bruit. Mais Seigneur, je veux prier davantage pour le salut des âmes. Et je veux témoigner davantage, Seigneur, pour le salut de ceux que tu m'as donné, ceux que je côtoie. Seigneur, je veux que dans cette fin d'année ou début d'année prochaine, eh bien, des cœurs se tournent vers toi. Là, ça doit être une ambition, ça doit être un désir, une soif, un feu qui brûle comme Jérémie. Eh bien, nous voulons le propager autour de nous. Alors, ça fait partie du combat. C'est un combat. Restez tranquille, on n'a pas besoin d'armes. Rester centré sur nous, on n'a pas besoin d'armes. S'occuper de nos affaires, simplement, on n'a pas besoin d'armes. Mais si nous décidons de reprendre à l'ennemi ce qu'il maintient, et de reprendre aussi à l'ennemi ce qu'il nous a volé, de nos familles, on ne sait pas, ceux qui sont retournés, eh bien, nous les voulons pour Christ. Et Christ les veut encore plus que nous pour lui. Alors, nous voulons être des instruments entre ses mains. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Et on se séparera après, mais nous voulons continuer à prier pour cela. C'est un véritable combat. Non pas une adhésion, mais une conversion, Seigneur. On veut vraiment que tu les arraches, aux griffes du malin et qu'ils deviennent entre tes mains des serviteurs, des servantes consacrées entre tes mains. Seigneur, nous voulons encore te bénir ce soir. Merci Seigneur pour ce combat spirituel, parce que si tu nous l'as enseigné dans ta parole, c'est que tu veux que nous puissions le mettre en pratique, nous emparer de toutes les armes que tu as mises à notre disposition, car elles sont efficaces, elles sont puissantes. Nous ne voulons pas mettre de côté une seule arme, mais nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce soir, et je me tiens devant toi. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Un cœur qui brûle encore pour toi et pour les âmes qui sont perdues, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas regretter de ne pas avoir parlé, mais nous voulons parler maintenant, pendant qu'il fait jour, pendant que la porte de la grâce est ouverte, pendant qu'il y a la possibilité, la liberté, Seigneur, de pouvoir prier et témoigner dans notre pays. Seigneur, nous voulons le faire. Donne-nous cette audace qui vient de toi. Seigneur, ce zèle qui vient de toi, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit allume un feu nouveau, nous renouvelle dans notre consécration pour le salut des âmes, des enfants, des ados, des jeunes, des moins jeunes, des vieillards, Seigneur. Donne-nous ces opportunités que tu nous donneras si nous sommes disposés, si nous avons des cœurs ouverts, si notre cœur brûle, tu nous mettras devant nous des âmes eh bien, qui vont se tourner vers toi. Seigneur, fais cette œuvre en cette fin d'année Et en début d'année prochaine, nous te prions, Seigneur, que les hommes et les femmes passent de la mort à la vie. Que ton esprit soit puissant sur nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.